Je refais le même dessin avec une légère modification ici au milieu. Bon, c'est comme toujours qu'on apprend à danser, c'est quand on apprend un nouvel instrument. Un peu fastidieux au début, il faut faire des gammes. Quand on a réussi à faire rentrer ça dans le corps, alors je dis rentrer ça dans le corps parce que c'est pas sûr qu'il s'agisse de le faire rentrer dans le corps, parce que c'est la définition de Lacan de l'initiation, faire rentrer les idéaux dans le corps. Qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est faire rentrer les idéaux d'une société dans le corps des sujets. Et justement, à partir de Cantor, à partir du moment où il existe quelque chose comme la théorie des ensembles, Lacan fait cette remarque dans le séminaire 11, il s'est passé quelque chose, c'est la trace, c'est le témoignage du fait qu'il s'est passé quelque chose. Si on peut écrire la théorie des ensembles de Cantor, eh bien, il n'y a plus d'initiation. C'est une difficulté que Milner rencontre dans l'œuvre Claire. Il parle bien de la différence entre le maître et le professeur. Et il a raison. Mais il fait remonter le maître uniquement au maître antique. Et c'est là qu'il a, il est un peu le nez sur le guidon, à cause de Kojève, qui a dessiné un grand abîme entre Aristote, Kant. Kojève s'explique sur ce grand abîme. Moi, je tiens que si on veut parler de l'époque actuelle et de ce qui se passe après la métaphysique, c'est-à-dire après Hegel, non seulement après Kant, mais après Hegel, tout ça, c'est ce que raconte Kojève. Il faut prendre un filtre un peu plus petit et s'intéresser à ce qui s'est passé non seulement pendant la patristique romaine, c'est-à-dire jusqu'à saint Thomas, puis la rupture thomiste qui donne Galilée, Descartes, Newton, Einstein, et Cantor s'inscrit là-dedans. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que, grâce à Hegel, semble-t-il, à l'achèvement de la métaphysique, il y a des choses qui deviennent possibles, qui n'étaient pas possibles avant. Comme par exemple, Cantor, la théorie des ensembles, Frege, Boole et Frege, qui vont créer la logique mathématique moderne. Mathématiques, donc. Et cette logique mathématique, bien, l'anglais va donner un modèle à arithmétique très intéressant, mais mécanisable, qui malheureusement a un modèle, a une réalisation électrique. Donc on n'est pas loin de la GGN. Ceux qui savent ce que c'est que la GGN, c'est qu'ils mettent des électrodes sur le corps de quelqu'un pour essayer de le faire souffrir afin d'en obtenir quelque chose. Donc il y a le côté GGN qui fait que tout le monde est content de la GF de boule, ça sert aux militaires. Alors que Frege, lui, il est plus difficilement utilisable par les torsionnaires et les militaires. Et Cantor également. Bon. Cantor, on l'accuse d'être psychotique. Mais c'est une façon de dénier un fait extrêmement important. C'est dans une réponse que Lacan fait à un de ses auditeurs dans le séminaire 11, où il fait cette remarque. Je ne connais pas dans le séminaire d'autres occasions où il fait une remarque comparable, en disant que à partir du moment où Cantor est capable d'écrire la théorie des ensembles, il n'y a plus d'initiation. L'initiation devient obsolète. Alors bien sûr, on a continué à faire des bizutages, parce que le bizutage c'était l'initiation. On a continué à faire des bizutages à l'école, soit dans le lycée Henri IV, dans les écoles d'ingénieurs. Ça peut durer encore, mais c'est passé de saison. C'est des survivances. C'est des survivances qui deviennent réactionnaires. On ne fait plus rentrer les idéaux dans le corps. Alors, pour apprendre à danser, par exemple, il faut décomposer les pas. Et puis, à un moment donné, on répète ça assez longtemps, jusqu'au moment où la décomposition, c'est-à-dire le caractère discret, le caractère découpé, va se lier. Et les coupures vont disparaître. Quand on arrive à passer du discret au continu, ce qu'il y a de magnifique dans le langage, c'est que le discret continue à rester lisible dans ce passage au continu. On efface et on maintient. Alors, la philosophie, ça pourrait intéresser l'idée de la Aufhebung, là, du fait de surmonter un terme hegelien.
Donc, quand tu dis discret, c'est un équivalent de discontinu.
De découper, oui. Discret, tu vois. La topologie la plus simple des entiers naturels, hein, les 1, 2, 3, 4, 5, quoi, ce que donnent les axiomes de Peano, sa topologie la plus simple, c'est une topologie discrète. On oppose le discret au continu, c'est un même espace peut être discret pour certaines topologies et continu pour d'autres. Un même domaine. Ça dépend comment on le filtre. Hein, c'est pas quelque chose d'absolu, mais il y a une différence entre la topologie discrète et la topologie continue la plus que n'importe quel domaine a, c'est ce qu'on appelle la topologie grossière. Il y a juste le vide et l'ensemble lui-même, le domaine, le champ en entier, puis le vide. C'est très grossier, mais on est sûr avec ça pouvoir faire du continu. Sinon c'est pas cher, puisqu'on est sûr, on peut le faire à... C'est pas très intéressant dans le filtrage. Et à l'opposé, la topologie la plus discrète d'un ensemble, d'un espace, d'un ensemble, c'est de prendre tous les sous-ensembles comme des ouverts, de prendre la topologie de tous les sous-ensembles, équivalents. On appelle ça la topologie discrète. Bon. Mais le prototype du discret en dehors des ensembles strictement, c'est-à-dire il y a une différence entre les ensembles numériques et les ensembles topologiques, les espaces topologiques. Donc, dans les nombres, c'est les entiers qui nous donnent le prototype du discret. Et le discret va devenir dense avec les fractionnaires. Les fractionnaires, ils sont denses, puisqu'on peut toujours mettre un fractionnaire entre deux fractionnaires. Hein, si vous avez un nombre fractionnaire comme 1/2 et un autre nombre fractionnaire comme 1/5, vous pouvez toujours en coller un entre les deux. Il suffit de faire la somme des deux et de diviser par deux. La somme ou la différence, vous verrez comment ça se passe. Ça veut dire qu'il y a toujours un milieu, un moyen terme qui est fractionnaire. Entre deux fractionnaires, vous avez toujours un nombre, une fraction qui sera juste l'intermédiaire entre les deux. Donc les deux qui restent, on va pouvoir en mettre encore un au milieu. Si on en a deux, on en met un au milieu. Entre deux d'entre eux, le milieu et un des bords, on peut en mettre un autre, et ainsi de suite. Donc vous avez le paradoxe de Zénon, et là vous avez la densité, vous allez vers la continuité. Tu vois, ça commence à se tasser. Et puis le continu, c'est quand, hop.
Ça fait penser à la bande.
Non, mais c'est un autre, ça c'est un autre type de modèle. Discret, c'est passer un fleuve au guet. Si tu mets tes pieds sur des cailloux, tu passes d'une manière discrète quand tu marches. Et voilà. Alors que faire du vélo, c'est continu. Faire rouler une roue sur une route, c'est continu. Et justement, le paradoxe de Zénon, c'est que Achille et la tortue, Achille court après la tortue. Et si on fait une analyse discrète du mouvement, il ne rattrape jamais la tortue. Parce qu'à chaque fois que la tortue a un peu avancé, lui, il la rattrape, et le temps qu'il la rattrape, elle avance un peu plus. Et d'une manière discrète, l'écart entre deux va diminuer infiniment, mais jamais être nul. Voilà une propriété du discret. Alors que si on prend des trajectoires continues, c'est-à-dire si on glisse, tu vois, comme lui il va deux fois plus vite que la tortue, les deux trajectoires, elles se croisent. Elles se croisent, mais le point de croisement, ce sera la limite de la série infinie des étapes discrètes. Hein? C'est ça le piège du paradoxe de Zénon, la manière de présenter le mouvement sans dire ce qu'on fait. Alors tout le monde est convaincu, on dit voilà, si autant T0, ils sont là, autant T1, ils sont là, autant T2, ils sont là. Le sujet ne se rend pas compte qu'on est en train de faire une analyse discrète. Alors que si on prend l'équation de leur mouvement à tous les deux et qu'on trace une courbe, une ligne continue, pof, Achille rattrape la tortue. Donc le continu et le discret, c'est la base de la topologie. C'est une structure hautement incompréhensible, puisque regardez comme c'est bien, ça c'est bien en langage, parce que il y a des gens, les intellectuels en général, les profs de philo, ils sont assez fascinés par l'infini. Mais l'infini s'écrit très très bien, et ça donne pas lieu à une difficulté comparable à celle du discret et du continu. Entre fini et infini, c'est Cantor, justement, qui va résoudre le problème définitivement. Ce que Pascal ne pouvait pas résoudre. Ce que Pascal a très bien vu chez Eudoxe, Cantor le résout. Et le fini-infini s'écrit très bien, sans paradoxe apparent, enfin, sans qu'on en fasse des gorges chaudes, tout au moins. Bien qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui sont là à se gratter encore la tête sur le fini et l'infini, infini potentiel, infini actuel. Pourquoi ? Parce que le vrai problème, le problème qui reste, qui demeure, qui est irreprésentable, c'est cette histoire de l'Achille et de la tortue, puisque ou de la flèche, du stade, c'est-à-dire que c'est pas un paradoxe physique. Hein? Ça, Coiré a écrit un très bel article là-dessus pour démontrer que ça ne posait aucun problème. On ne rencontre jamais ce problème dans un laboratoire, mais que c'est un fait d'écriture. Ça, c'est un fait géométrique et arithmétique. Et donc, qu'est-ce qui est paradoxal dans le discret et le continu ? C'est que le continu contient le discret. Donc, ce qui peut le plus ne peut pas le moins. Achille rattrape la tortue dans une analyse continue qui englobe l'analyse discrète, et c'est dans une analyse plus faible que le paradoxe apparaît, parce que dans le discret, Achille ne rattrape jamais la tortue. Donc la topologie reste un lieu de structure plus fondamentale, même que le fini et l'infini. Bon, ils sont coordonnés tous les deux, mais ils sont... Cantor, voilà ce qu'il fait, il marque une coupure en ce qui concerne le fini et l'infini. Mais c'est pas seulement ça qui fait dire à Lacan que c'est quelque chose qui va achever les initiations. C'est le fait que c'est effectivement intégralement transmissible et enseignable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie a plutôt diffusé à partir des travaux des élèves de Russell Arrobas, hein, qui vient de la négation du petit 2A, c'est un A nié qui joue un rôle élémentaire dans l'écriture de Peirce. Et ça, moi j'ai fait deux articles là-dessus, vous trouverez ces petits ronds autour des petites lettres dans les articles qui sont dans mon site, là, dans la page que j'ai mise sur Internet, là, grâce à Pascal Bernache, qui est accessible. Donc ça s'appelle « Deux petites géométries hein ». Vous verrez que c'est des géométries qui sont des géométries des ronds qui sont autour de l'arrobas. C'est issu de Peirce. C'est un calcul des propositions extrêmement graphiques. C'est très joli et ça. Il y a un type qui a encore réduit le système d'écriture à quelque chose encore plus zen, plus rudimentaire, qui s'appelle Spencer Brown, qui est un élève de Russell, un Anglais. Peirce et les Anglais. Bon. Et puis vous avez ça chez Cantor. Donc depuis Peirce, Spencer Brown ou Russell ou bien Cantor, vous n'avez pas besoin de faire de la philologie pour utiliser ces caractères. Vous n'êtes pas obligé. Alors que lire les Dick et Nicomaque, c'est quand même, on n'est pas sûr que même si on est très bon en grec comme Madame Barbara Cassin, on n'est pas sûr de ce qu'il voulait raconter Aristote. Est-ce que Cantor, ce qu'il voulait raconter, on s'en fout, à F0. Il a inventé. Alors, il a aussi fait rentrer dans la littérature mathématique Aleph 0. Voilà, Aleph 0, c'est pour le premier infini dénombrable. Qu'est-ce que. Ça, c'est sûr que c'est parce qu'il avait des préoccupations, justement, philologiques. Mais on peut s'en passer, on peut. Sauf son respect, on peut l'appeler Oméga 0. Des gens qui ont fait ça, c'est exactement pareil. Le choix de la lettre n'a pas une grande importance. Mais tout de même, c'est quand même curieux le statut de ces lettres, puisque le choix de la lettre n'a pas d'importance, mais pris dans un texte, celui-là, on le reconnaît. Et maintenant, à partir de Cantor, celui-là, on peut même le reconnaître dans des textes indiens. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que la lettre n'est pas non plus figée dans sa présentation graphique. Hein? C'est pas une gestalt, c'est ça la question de la lisibilité. Et ce que je dis, c'est que quand on apprend à danser, quand on apprend à balayer, il faut savoir lire et écrire. On n'emploie pas d'instrument. Alors bien sûr, il y a des malins qui vont parler du castor qui fabrique son habitation en utilisant sa queue comme un levier. Vous savez, tout ce qu'on peut faire avec une queue de castor. Il reste que moi je prétends que les outils ne sont pas seulement des prolongements des organes de la perception, que les outils sont des instruments bons à lire, comme dit Lévi-Strauss à propos des mythes, qui ne sont pas seulement les animaux et les plantes ne sont pas bonnes à manger ou bons à manger, ils sont bons à penser. Et donc, si on sait lire, alors. Il y a une différence entre les technologies néolithiques, celle du marteau, de la hache, le fait de danser, le fait de tirer à l'arc, et puis la façon de s'identifier pour conduire une voiture. Mais là aussi, il faut apprendre à manier les pédales, le changement de vitesse. Même avec un embrayage automatique, on essaye de faire disparaître ça, mais il y a cette dimension d'écriture qui est discrète et qui doit s'effacer dans la lecture, dans l'accomplissement de l'acte. Mais ça reste lisible. C'est ça qui est passionnant. Bon. Donc, vous voyez, c'est un peu un gros paquet de trucs, ça, de ronds. C'est trois ronds qui se simplifient mutuellement. J'ai fini la dernière fois en vous donnant le prototype le plus simple de ces trois ronds qui se simplifient, c'est avec une chaîne borroméenne comme ça. Vous voyez, si je mets ici un autre rond comme ça, hein, et le troisième ici. C'est les trois ronds qui sont là avec des tortillons en plus. Donc il faut décomposer les trucs d'une manière discrète et petit à petit on s'aperçoit qu'on va savoir lire, c'est-à-dire qu'on va savoir. Alors est-ce qu'il s'agit de reconnaître des formes ? Parce qu'il y a une discipline mathématique qui s'appelle la reconnaissance des formes. On essaye de faire le plus possible que des ordinateurs, des machines reconnaissent ce que vous avez comme pensée au fond de l'œil. Hein ? Pour repérer les bandits. Voilà. Est-ce que lire, c'est reconnaître des formes ? Non, justement pas. C'est pour ça que je dis que c'est pas gestaltiste. C'est l'erreur qu'on commet avec Freud. Enfin, je dis, Freud, moi je prends au sérieux le fait que dès le début, il dit le rêve est à prendre comme un texte. C'est ni une bande dessinée, ni un dessin animé, c'est un texte. Qu'est-ce que c'est qu'un hiéroglyphe ? La passion de Freud pour l'Égypte. Alors on s'identifie ce passage du discret au continu, il y a effectivement quelque chose de l'ordre de l'identification. C'est l'identification au pré-unaire. C'est l'entrée dans le processus primaire. L'identification imaginaire qui est juste avant, c'est au père comme idéal. C'est la toute-puissance de la mère. Parce que ça peut être ça aussi l'idéal. L'identification première. Alors que là, apprendre à lire, c'est justement passer de cette dimension imaginaire, ce rival qui a tous les pouvoirs, quand il dit qu'il en a les droits et les moyens, qui peut faire blêmir de jalousie l'enfant, eh bien, ensuite, il y a le pré-unaire. Le pré-unaire, c'est l'entrée par le trauma dans l'appareil de langage. L'enfant, il s'aperçoit, il rentre là-dedans en s'apercevant que ses parents, justement, ils y font plus attention. Ils savent lire, mais ils sont plus des lecteurs attentifs et ils sont même plus attentifs à leur propre lecture. Ça le traumatise, le petit. Qu'on piétine le Père Noël. Parce que le Père Noël, c'est uniquement une affaire de parole et de quelqu'un a dit et puis il existe. C'est comme ça, c'est autour de cette histoire de phallus. Bon, ça s'appelle le Père Noël dans notre civilisation moderne et commerciale, mais ça s'appelle la fonction phallique. Comment reconnaître que le trait distinctif est présent alors qu'il est absent ? L'enfant qui dit « ma mère a un phallus », il n'est pas con. Il dit « ça se lit, je ne suis pas obligé de tout écrire ». Comme le dit très joliment le latin, c'est de l'ordre de l'intelligence. Lire entre les lignes. Même Jules Vallès dit ça. C'est la loi, elle s'écrit entre les lignes. C'est ce qui fascine beaucoup d'analystes chez les juristes. Ils n'arrivent pas à faire juridique parce qu'ils sont fascinés. Comment ces gens-là lisent entre eux ? Ils ont des pratiques de procédure et puis ils discutent de leur lecture des textes et de leur façon. Alors on dit interpréter, mais on n'a rien dit si on dit interpréter. Qu'est-ce que c'est que lire ? Et il y a des discours qui conduisent à lire différemment. Chaque discours a son... Depuis le poème, la littérature, la philosophie, ensuite vous pouvez faire de la géographie, de l'histoire, de la géographie, de l'économie, de la biologie, de la physique, des mathématiques, c'est des façons de lire et d'écrire qui sont différentes. Et même balayer... Utiliser un balai, quelqu'un qui n'a jamais balayé, qui est comme moi, quand je prends un balai, ça me donne des boutons, tout au moins des ampoules, parce que je suis un petit bourgeois paresseux, et ben voilà que ça se voit, je peux pas faire croire que je sais balayer. Je fais croire que je sais balayer qu'à ceux qui veulent bien. Donc le fossoyeur dans Hamlet, les acteurs qui jouent le fossoyeur ont raison de détester Hamlet, parce que eux aussi savent lire, même pour creuser des trous et des tombes. Et Lacan rappelle ça, et Jones l'avait déjà rappelé, que les acteurs qui jouent le fossoyeur dans Hamlet détestent les acteurs qui jouent Hamlet. C'est une odiosité. Bon. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que ceci se défait et que la question qui va nous intéresser, c'est le fait que ici, qu'est-ce qui va se passer? Si j'introduis dans un dessin qui se démaille, qui se détricote, hein, si j'introduis quelque chose qui modifie une des moitiés, est-ce que vous pouvez imaginer que si je coupe, si je fais des petites coupures comme j'ai fait ici, là, dans cette partie, dans ce triskel au milieu, c'est-à-dire ici, j'ai introduit une modification dans le dessin, et bien ça ne va pas toujours continuer à se défaire. Mais ça peut. Et c'est le cas dans ce dessin. C'est ce qui me fait dire que cet objet A et cet objet B, hein, B il est égal à A moins 1. Parce que l'un est l'inverse de l'autre. Et A est égal, est homologue à A, parce que justement A et A moins 1, ça fait 0. Alors que ici, il s'agit de A prime, et puis je garde B, qui est toujours égal à A moins 1, parce que le A, c'est celui de là-bas. Ça, c'est A prime. Et A prime, je lui apporte une petite modification. La petite modification, c'est que j'ai mis comme ça les trois ronds en continuité. Si j'avais mis de la surface là, dans le petit fisquel qui est au milieu, si j'avais mis de la surface là, voilà, si c'était un morceau d'étoffe, hein, ben ici je prends des ciseaux. Ici, je prends des ciseaux et je fais des coupures dans cette étoffe. Voilà. Ce que Lacan appelle dans le séminaire, vous savez, le symptôme, il parle de raboutage. Plusieurs fois dans le séminaire, à partir de cette époque du symptôme, il va parler de raboutage. Il s'enquiquine énormément avec ça. Endroit où il est là en train de donner des explications assez complexes et assez compliquées et assez embêtantes, assez embarrassantes, on voit pour lui. Vous voyez, je vais vous dire la page, l'endroit où il parle de. Un des endroits importants où il parle de ce raboutage, c'est dès la fin de la leçon numéro 2. Attendez, je regarde si c'est bien ça. Non, c'est la leçon numéro 3 plutôt. Il y avait un dessin que j'en crois. Non, c'est pas la 3. C'est peut-être la 4. Oui, c'est la 4. La fin de la quatrième leçon. C'est la leçon du 13 janvier 76. Vous voyez, il met des petits numéros. Là, dans les dessins de la liste, ils ont mis des petits numéros. Ils ont mis 1, 2, 3. Et il y a un commentaire de Lacan qui reprend, c'est 1, 2, 3. Il dit, le nœud de l'imaginaire et du savoir inconscient que nous faisons ici, quelque part, une épissure. Il appelle ça une épissure. Tout ça pour obtenir un sens. Il parle de ces épissures, de ces mises en continuité. C'est ce qui permet de passer, voyez-vous, du borroméen au trèfle. Alors, si je fais la même épissure ici, voilà, moi je la fais, l'épissure je la fais différemment. C'est 30 ans après. Vous voyez l'épissure qui est là? Bon. Et bien dans le bord. Cette épissure, elle donne un trèfle. Je vais vous montrer le trèfle. Vous voyez ? Le borroméen qui est là, il se transforme en trèfle. Ça, c'est la même chose avec cette épissure. Si je défais les petites boucles, bon, les petites boucles, je vais les faire toutes petites. Voilà, j'ai quelque chose qui est comme ceci, comme cela, comme ça, comme ça, voilà. Est-ce que vous commencez à voir apparaître mieux que, c'est, que cette mise en continuité des trois ronds deux par deux, ça va produire quelque chose qui fait passer du borroméen au trèfle. Ça, c'est un trèfle. Un trèfle que je peux usuellement dessiner comme ça. Pour jeunesse. Eh bien, le fait de faire cette épissure ici, comme le fait de faire cette épissure ici, pour donner celui-là, ce type de mise en continuité ne contredit pas le fait que tout ça, ça se détricote facilement. Alors d'abord, la première étape, c'est est-ce que vous êtes d'accord d'où vous êtes pour voir que ça, ça se détricote bien. Vous voulez que je le détricote au-dessus ? Hein ? Oui ? Bon, alors regardez. Ici et là, vous avez ce qu'on va appeler deux mailles. Qu'est-ce que c'est les deux mailles ? C'est des grandes mailles, mais c'est des mailles quand même. Vous voyez, ici, là où j'ai mis les points, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est tout bête. C'est quelque chose qui est comme ça. Comme là, le fil passe deux fois en dessous de l'autre qui passe deux fois au-dessus, ces deux mailles, cette maille, elle peut se défaire et donner lieu à quelque chose qui est comme ça. Vous voyez ? La zone où j'ai mis le point disparaît. Et les deux zones qui sont ici extrêmes se trouvent en continuité. Bon, ça, c'est le fait que quand vous faites passer un rond au-dessus d'un autre rond, bah, vous pouvez les libérer comme ça, ils sont pas enlacés. C'est ce fait de la maille qui se trivialise, c'est le contraire d'une maille qui s'accroche. Hein? Si vous avez une maille alternée comme ça, si vous avez une maille alternée, ça se défait pas. La zone qui est au milieu, elle va rester. On peut coincer quelque chose, on peut serrer la maille. Vous voyez, là je serre mes doigts, on peut serrer la maille, mais ça reste accroché.